Ernest dit Laurent de la Barre, fantôme breton, récit des grèves, le fils du pilleur. Le dévouement est une chose admirable. C'est pour ainsi parler la foi dans l'amour. Il surmonte tous les obstacles, ne se rebute jamais, se donne sans calcul, sans mesure. Il touche les cœurs, entraîne et soutient les faibles et désarme les méchants. Mais que dire du dévouement méconnu, méprisé, mépersécuté? Hélas, les exemples de ce dévouement, frères du martyr, ne sont pas aussi rares, grâce à Dieu, même de nos jours, qu'on semble le croire, et nous pourrions, au milieu des cruels événements qui ont frappé notre pays, en trouver dans tous les rangs de nombreux exemples à porter à son avoir. Mais ce n'est pas de ces grandes choses que nous voulons parler ici. Notre sphère est plus modeste et notre dévouement ne montera pas aussi haut. Suivez-nous donc, encore une fois, lecteur, sur ces grèves où nous aimons tant à vous conduire. Le village de Lochirec est bâti, comme l'indique son nom armoricain, sur une pointe allongée de la côte entre Lannion et Morlaix. Aujourd'hui, ce port, fréquenté par les pêcheurs et petits caboteurs, se trouve dans une situation relativement meilleure, mais vers le commencement de ce siècle, époque où se place notre récit, ce n'était qu'un pauvre abri pour les barques de pêche de l'endroit. Autour de la vieille église, lézardée par les ouragans, on voyait à peine trois ou quatre habitations auxquelles on pouvait donner le nom de maison, mais l'une était le presbytère et une autre, plus près de la mer, la demeure de maître Christophe Brionnel. Ce dernier homme important du village était un rude loup de mer et ancien brigadier des douanes en retraite. Les cabanes des pêcheurs se trouvaient disséminées sur la falaise. Quelques-unes s'avançaient tellement vers les sables que le flot des grandes marées les atteignait presque lorsque le vent poussait à la côte. C'est dans une de ces pauvres cases que demeurait la veuve du pilleur, comme on disait. Marie Lestour n'avait qu'un fils, Franz ou François, jeune et courageux matelot. La mort de son mari, arrivée depuis 7 ans, l'avait laissée presque dans la misère avec son enfant. Voici au milieu de quelles circonstances le pilleur avait trouvé la mort. Dans les derniers temps de sa vie, la conduite de Lestour inspirait davantage d'assez graves soupçons. Ayant à peu près renoncé au travail, à la pêche qu'il faisait vivre, il s'adonna de plus en plus à l'ivrognerie, cette lèpre des campagnes et des grèves. On le notait déjà comme contrebandier ou forban. C'est pourquoi maître Christophe, qui le détestait, résolut de le surveiller et de le prendre en flagrant délit. D'où venait cette haine de Christophe Brionnel contre Lestour? Marie avait été belle dans sa jeunesse, elle l'était peut-être encore, et le brigadier s'en était aperçu quand elle comptait 20 printemps. Marie avait-elle refusé l'uniforme du gabelou? Nous ne savons au juste, mais la supposition ne serait pas dépourvue de quelque vérité. Sur ces entrefaites, un naufrage eut lieu en vue de Lochirec. Un brick hollandais vint s'échouer sur un banc de rochers à 1 mille au large. À cette époque, les moyens de surveillance et de sauvetage faisaient à peu près défaut. La tempête ayant continué toute la nuit, le navire se trouva bientôt démoli par les coups incessants et les lames portèrent à la côte de nombreuses épaves. Lestour, dont la cabane était à proximité, ne fut pas le dernier à remarquer les objets que la mer charriait dans les sens. Le pilleur n'osa rien enlever pendant le jour suivant, mais la nuit étant venue, sans que les guaniers retenus sur un autre point eussent paru aux environs, il s'arma de son long croc à naufrage et alla se cacher dans une caverne profonde. Puis, après une heure d'attente au milieu des bruits de la tempête, ne voyant rien bouger sur les falaises, Lestour s'avança sur la plage et commença son affreuse récolte. Tout se passa bien d'ailleurs. Le vent mollissait, la mer se retirait, laissant à sec caisse, baril, voile, cordage. La grève paraissait solitaire. Les flots, en battant les noirs récifs, répondaient seuls aux cris des cormorans. Alors Lestour parvint à saisir, au moyen de son croc de fer, une caisse pesante qu'il se mit en devoir de briser afin d'enlever ce qui conviendrait mieux à sa convoitise et à ses forces. Il ne voyait pas des ombres monter lentement sur la falaise au-dessus de la place où il travaillait, et tout à coup, des deux côtés de la baie, des appels réitérés se firent entendre. C'était Christophe, s'éloigner et quelques matelots du navire naufragé. Que faire? Fuir par les falaises était presque impossible. Attendre, oh, le flagrant délit était constant. La mer seule, offrait aux misérables ses flots agités, mais pourtant secourables. Il n'y avait pas à hésiter. Le pilleur s'élança dans l'eau. Mais nageant avec une rare intrépidité, il se serait sauvé sans doute si les douaniers, et surtout Brionnel, qui passait pour un habile tireur, n'eussent fait feu sur lui à plusieurs reprises. Le lendemain, la mer rejeta sur la plage le corps du pilleur au milieu des débris qu'il avait convoités. Ce tragique événement causa une vive émotion dans le village. La veuve Lestour, malgré sa piété qui lui commanda de pardonner, ne put cependant oublier d'où venait le coup affreux qu'il avait privé de son mari, coupable sans doute, mais qu'elle espérait ramener au devoir. Et elle eut la force de ne jamais confier à son fils la cause de sa peine. Franz fut plusieurs années sans soupçonner la part que Christophe avait prise à la mort de son père. Lorsque, avec le temps, une circonstance fortuite, que nous raconterons tout à l'heure, le laissa lire avec horreur au fond de ce mystère, peut-être était-il trop tard pour qu'il lui fût possible de repousser les sentiments nourris par l'enfance, l'habitude et l'amitié, ces trois sœurs du souvenir. Chapitre 2. Or, Christophe Brionnel, homme violent et orgueilleux de son importance relative, avait une fille unique nommée Martha, chétive créature, pâle et boiteuse. Mais la douceur et l'éclat de ses grands yeux bleus donnaient à sa physionomie une expression touchante et indéfinissable. Son père, tout occupé de ses fonctions, avant qu'il eût pris sa retraite, et se livrant depuis à la pêche avec ardeur, quelquefois à l'occasion, en pilotant les caboteurs à l'entrée de la rivière de Morlaix, son père n'était pas d'humeur à surveiller la petite torte, comme on l'appelait. Celle-ci se rendait chaque jour à l'école du village, où la pauvre femme d'un gabarier apprenait tout juste aux enfants à épeler et à âner leurs prières. Par ailleurs, la surveillance de Martha était confiée à une vieille paysanne qui avait assez de balayer 100 fois le jour sa cuisine où elle brûlait et enfumait le plus souvent les vivres du patron. Après la classe, la jeune bande se dispersait par dunes et grèves pour y chercher des coquillages et des galets brillants. Martha, qui ne courait pas sans peine, allait s'asseoir sur une roche élevée, d'où elle suivait tristement les joyeux ébats des goélands sur le ciel et de ses petites amies, autres mouettes qui semblaient voler sur le sable. Mais à un certain moment, vous l'eussiez vu tressaillir, son teint pâle se colorer, ses grands yeux se dilater, et perçait l'espace pour mieux distinguer une voile sur la mer. Puis un petit bateau de pêche se rapprochait, accostait dans une baie au-dessous de l'observatoire de Martha, et un jeune matelot, laissant le vieux maître de la barque achever le travail du mouillage, gravissait avec ses paniers et son butin la falaise escarpée. C'était Franz, devenu l'ami de Martha et presque son protecteur, vu l'infirmité de la petite Torte qu'il met à porter sur son dos à travers les grèves et les rochers. Ainsi Franz, l'alerte et brave matelot, s'attacha de plus en plus à la fille du brigadier en mettant ses jambes agiles au service de celle qui en était presque privée. À cette date, nos jeunes amis, nés la même année, pouvaient avoir 14 à 15 ans. C'était touchant de voir sur les falaises ce robuste jeune homme servir pour ainsi dire de monture docile à la faible créature qui poussait alors seulement des cris de joie en se sentant emporté par une course rapide. Pourtant, si Franz ignorait la haine que le père de Marthe avait vouée à sa famille, il la pressentait peut-être, car d'instinct il évitait soigneusement les parages où il eût été exposé à rencontrer le rude brigadier. Un soir, cependant, Martha étant sans doute indisposée, son jeune ami ne l'avait pas trouvé à son poste ordinaire. Il l'attendit longtemps et, quand la nuit fut venue, il s'en alla courir à l'aventure sur le bord de la mer. Il se disposait à descendre pour revenir à Lochirec, vers une base baie au fond de laquelle on amarrait souvent des barques par le beau temps, lorsqu'il entendit parler assez fort et reconnut l'accent emporté de Maître Christophe. Il s'éloigna instinctivement du sentier et se cacha parmi les grandes roches. Deux hommes s'approchèrent bientôt, gravissant la côte avec lenteur à cause des paniers et agrès qu'ils portaient.
« Oui, pour sûr, patron, disait l'un des deux. Voilà plus de 10 fois, oui, que je vois votre petite là, aller là-bas, vers la grève de Saint-Jean, sur le dos de ce vagabond.
Oh, il faut que tu me le dises pour que je le croie. Tonnerre, répondit Brionnel, après ce qui s'est passé avec le pilleur.
Oui, pas moi, c'est pas assez drôle, dit l'autre. Le fils portant la fille de celui qui...
Tais-toi, vieux gabelou. Ça m'exaspère et je crois que je l'écraserai comme un cancre.
Pas moins que vous fîtes, patron, dans ce temps-là, un grave coup de fusil. J'y étais, moi, et à votre seconde dalle. Malgré l'ombre, j'ai vu le damné pilleur qui nageait comme un con pour faire une culbute de marsouin. Que c'en était, hein? Qu'est-ce que vous dites?
Moi, gabelou, non, rien. C'est la mer qui pleure ou le vent qui siffle dans les rochers. Allez, ça nous amènera de l'eau, filons.
Non, ce n'était pas la mer qui pleurait, ni le sifflement des rafales. C'était les gémissements d'un fils atterré qui répondait à ses horribles discours. Au malheur, s'écria Franz. Quand les hommes se furent éloignés.
Malheur sur nous.
Oh, mon père infortuné, je vous vengerai.
Du jour au lendemain, la vie changea pour nos deux enfants. Que se passa-t-il alors entre le père et la fille? Nous ne savons. Mais Martha ne vint plus seule sur la falaise et n'y vint que rarement. Sa santé s'altéra et ses forces diminuèrent. Christophe, satisfait d'avoir coupé le mal à sa guise, ne s'inquiétait pas d'autre chose, quoiqu'il aimât sa fille, assurément, un peu plus que sa pipe ou son matelot, et autant que sa chaloupe. Hélas, tout devenait noir autour du malheureux Franz.
Ce n'était plus que de loin en loin que, caché dans les grottes, il apercevait un instant la frêle et pâle Martha qu'une vieille femme accompagnait, ou que Brionnel traînait à sa suite quand il avait le temps, ce qui était bien rare. La veuve Lestour s'attristait aussi de voir son fils sans goût au travail, errer sur les rivages comme une âme en peine. Franz lui avait fait part de sa terrible découverte, et sa mère ne pouvait que faire d'inutiles conjectures. Oui, Franz errait sans cesse sur les grèves, presque inoccupé en apparence. Mais Franz guettait son heure. Il épiait, il hâtait de ses voeux, il convoitait la vengeance. Un jour, avant le coucher du soleil, Martha et sa gardienne étaient assises sur la pointe avancée de l'Ockyreck, sans doute pour attendre Brionnel. La bonne femme se rappela qu'elle avait oublié à la maison un travail recommandé par le patron et manifesta son inquiétude à la petite fille. « Va bien vite, lui dit l'enfant, le père gronderait à son retour. Il ne tardera pas à revenir, je crois même que j'aperçois son embarcation là-bas dans la brume. Je vais t'espérer ici. » La gardienne s'éloigna sans se faire prier davantage, et Martha demeura seule, plongée dans sa rêverie. Le vent commençait à s'élever. Les nuées devenaient plus épaisses. Il y avait un grain sur la mer. La marée montante, poussée par le vent d'ouest, vint battre tout à coup et entourer les rochers où se jetait la petite fille de l'ancien brigadier. Elle ne remarqua pas au premier abord ces signes avant-coureurs du danger. Mais quand son coup d'œil d'enfant des grèves lui en eut révélé l'imminence, Martha descendit l'escarpement des rochers et n'hésita pas à se mettre à l'eau pour traverser à gué le chenal où les lames roulaient déjà à de courts intervalles. Du temps où Franz la portait sur ses fortes épaules, 20 fois ils avaient pris ce chemin pour gagner le village. Mais aujourd'hui elle était seule, seule et épouvantée. Passer entre deux lames n'eût pas été impossible, si sa démarche eût été plus hardie et le temps moins sombre. Mais il n'en était pas ainsi. Martha tremblait et son infirmité rendait ses pas plus chancelants dans l'obscurité croissante. Enfin, une forte houle, poussée par le vent et la marée, déferla dans le chenal étroit sur le passage de la pauvre enfant, qui roula submergée en poussant un long cri de détresse. Quelques minutes après, Martha évanouie était déposée sur le sable au bord de la baie. Un matelot, tout ruisselant d'eau de mer à genoux devant elle, essayait de la ranimer. Puis, rapide comme l'éclair, le matelot se releva et, abandonnant sa charitable besogne, disparut derrière les grandes roches. « Quoi, une femme affalée sur le sable, noyée ? Non, non, ça remue. Mille et mille tremblements. C'est Martha. Ma fille, ma fille. Me voilà près de toi, t'as plus rien à craindre. Oh, mais tonnerre, que veux-tu faire là, si tard ?»« Vous espérez, mon père, et priez le bon Dieu pour vous, » murmura Martha d'une voix faible. « Oh, c'est bon, » dit le marin. « Mais qui diable t'a tiré de ce mauvais pas ? Qui s'est sauvé à mon approche ?»« Le flot m'a surprise sur la pointe, » répondit la pauvre petite, soit qu'elle voulut éluder la question, soit qu'elle ignora en vérité le nom de son sauveur. « Prends garde, mille bombes, » reprit le brigadier, « va pas, vous le voyez avec moi. » Puis s'apaisant un peu, il marmotta entre ses dents. « J'aime ma fille, sans doute. Mais si elle avait eu le malheur d'être tirée de l'eau par ce fils de Forban, oh, tonnerre, je crois que... » et il frappa la roche de son lourd talon à l'ébranler. Les choses en restèrent là pour cette fois. Christophe ramena sa fille dans ses bras à son habitation, gronda rudement la vieille gardienne, et l'on ne parla plus de cet accident dont peu de personnes eurent connaissance. Tel fut le commencement de la vengeance du fils du pilleur. Pour lui, ce n'était pas assez. Il comptait sur la providence et espérait mieux encore. Chapitre 4. Quelques mois après, sur le Tarn, on était à la fin de novembre. Franz parcourait les falaises selon son habitude, quand, revenu de la pêche, après avoir apporté son poisson à sa mère, il allait au fil de l'eau pour songer à la pauvre Martha et à leur malheur. Un grain s'était levé au large sans qu'il l'eût remarqué. Il faisait noir par moments, sous les grosses nuées, quoique par intervalle la moitié de la lune vint jeter sur les flots de longues traînées d'argent. Il était occupé à regarder sous le vent de la pointe, où se trouve une sorte de chaussée d'écueils que la mer recouvre en montant, les évolutions hasardeuses d'une barque de pêche que le vent du large semblait affaler vers les brisants. Le vieux matelot, qui partageait son embarcation avec lui pour la pêche, l'aborda en ce moment. « Ah, voilà une barque qui file à mauvais nœud, m'est avis, lui dit-il. Si le patron perd de vue le cocher de Loquerel, il est coulé, c'est sûr. » Oui, « ce n'est que trop probable, Tom, répondit Franz, qui examinait avec une attention pleine d'anxiété. « Dieu du ciel, mais c'est la petite embargation de... « De Christophe, pas vrai, garçon, je t'ai compris. Pas besoin de rester ici voir. Gagnons rapidement nos hamacs. » Franz retint le matelot par sa vareuse. La lune jeta ses rayons obliques sur la chaussée de brisants. La voile avait disparu. « Est-ce que j'ai la berlue ?» dit le matelot. « Sont-ils cachés par une roche ou avalés par les congres ?» Pour toute réponse, Franz se remit à courir vers la baie où s'amarrait leur bateau. Tom le suivit en maugréant. Puis, au bout de 5 minutes, 5 siècles pour l'ardent saufateur, la barque de sa voile, hissée au risque de rompre le mât, filait comme un goéland sous la tourmente vers les brisants que l'on prenait toujours tant de soin d'éviter. Mais Franz tenait la barre et le matelot ne pouvait que surveiller l'écoute en recommandant son homme à Dieu. « Pas moins, murmurait-il, que ça serait dur d'avaler sa gaffe pour se donner de Brionnel. » Bientôt, à la morne clarté d'une lune voilée, ils virent l'eau bouillonner sur la chaussée, presque sous l'avant de leur bateau, et aperçurent avec effroi la quille luisante au-dessus des lames d'un canot submergé. Soudain, sur la grosse roche que les houles commençaient à balayer, ils virent une ombre s'agiter, tendre les bras, et ils entendirent des cris de détresse. C'était la voix d'un enfant qui appelait au secours. Ranger les écueils avec adresse et courage, accoster l'îlot de jet granit sous le vent, s'y lancer sans hésitation, ce fut pour l'intrépide jeune homme l'affaire d'une minute. Malgré ses murmures, le vieux Tom l'avait fortement secondé dans son œuvre généreuse en s'efforçant de maintenir le bateau et de parer la boulage des récits. Franz trouva sur l'îlot un mousse qui seul accompagnait Brionnel dans ses petites tournées. L'enfant était affolé de terreur. « Là, là » criait-il, « voyez, il est à moitié dans l'eau, c'est le patron, la mer va l'emporter !» Franz fit quelques pas dans la direction indiquée. La face tournée contre le goémon, le corps déjà inondé et soulevé quand revenaient les lames, un naufragé gisait sur la roche. Le fils du pilleur l'entraîna un peu plus haut, où les flots ne montaient pas encore, et retourna le cadavre. Il ne put retenir un cri en voyant le visage livide, les mains crispées, la poitrine sanglante de son persécuteur. Après ce sauvetage, Franz parut reprendre un peu de goût à la vie. Du moins, sa mère voulut l'espérer pendant quelques mois. Elle se trompait. Franz, voyant que le temps n'amenait aucun changement dans sa position, sentait son courage l'abandonner encore. Il avait fait jurer à son matelot, sur la part de paradis, que jamais il ne révélerait le nom de celui qui avait couru au secours de Brunel, et le mousse, seul autre témoin de ce naufrage, se mourait des suites de l'accident ou de la terreur qui l'avait frappé. Enfin, ce qui augmentait la cruelle tristesse, le découragement profond de Franz, c'était de savoir que la fille du brigadier, souffreteuse depuis longtemps, s'approchait peut-être déjà du cimetière, tandis qu'il était si heureux de lui donner la main pour la conduire dans le chemin fleuri où la vie reprend vite à 16 ans. Un jour que, par exception, ou pour tâcher d'avoir quelques nouvelles de la petite boiteuse, la veuve Lestour passait dans le village, non loin de la maison de Christophe, celui-ci, assis sur le seuil de sa porte, les bras encore en écharpe, l'aperçut et s'écria en faisant un geste de colère et de mépris: « Que viens-tu chercher ici, moitié de pilleur? Passe au large ou que le diable m'étrangle !» Il en eut bien dit d'autres dans sa fureur, si Martha, qui survint aussitôt, ne l'eût entraîné dans la maison. Surexcité par cette indigne apostrophe, la veuve le suivit dans la chambre dont la porte était restée ouverte, et là, les bras croisés, la poitrine haletante d'une cruelle et juste indignation, la veuve parut braver l'ancien brigadier dans sa demeure. « Sors d'ici, damnée voleuse !» hurla le furieux, en levant pour frapper un bras que Marthe retenait à grand-peine. « Je ne sortirai pas, Christophe, répliqua la veuve, outragée, avant de t'avoir dit la vérité que tu ignores, je crois, et qui sera du moins la juste punition de ton injustice. Oh, tes insultes ne me font pas peur, écoute-moi. Si je suis la veuve du pilleur, c'est la main que tu as levée sur moi qui fit le coup, je le sais. Mais toi, si tu peux presser dans tes bras ce cher ange qui voudrait t'apaiser, c'est à mon fils, au pauvre Franz, que tu le dois. C'est faux, répliqua Christophe, blême de fureur. Mais c'est la vérité. Demande à ta fille qui l'a tiré de l'eau un soir. « Dis donc, quel ment !» interrompit le brigadier en repoussant Marthe, suffoquée par les sanglots. « Écoute encore, Christophe, je n'ai pas fini. Oui, Franz a sauvé ta fille, et comme le bon Dieu voulait te confondre encore plus, il t'a fait briser ton canot sur la pointe là-bas. Enfin, c'est le fils du Forban, oui, du Forban que tu as tué, c'est lui qui t'a sauvé et ramené mourant à terre au péril de sa vie. Mille ouragans, hurla Brionel, foudrage, sors d'ici, va-t'en, pieuse, va-t'en. Oui, je pars, dit la veuve avec calme. Je puis partir, car tu sais maintenant ce que le pilleur méprisé a fait pour toi. Que le ciel te pardonne à cause de ta fille. Adieu.
Chapitre 5. S'il est ici-bas une douleur, une angoisse que l'on ne peut peindre, il en est à plus forte raison que l'on ne saurait supporter sans faiblir, sans mourir peut-être. La douleur et l'angoisse de la pauvre Martha furent de ce nombre.
la dernière scène dont elle fut le triste et impuissant témoin contre un père de qui l'âme endurcie était violente comme l'ouragan, cette scène avait atteint les derniers ressorts de sa frêle organisation. Mais, chose étrange, si le chagrin prolongé terrasse à la fin ses innocentes victimes, la honte, la colère, l'impuissance à changer des événements funestes, le remords enfin, tue peut-être plus vite. Le violent brigadier, injuste et cruel, nous en montre ici un exemple. Soit que la santé de sa fille, qu'il voyait décliner, sans vouloir ni savoir y porter le seul remède nécessaire, soit que son orgueil blessé, aigri, envenimé, eût frappé son moral d'un coup qui affaissa ses forces en peu de temps. Toujours est-il que Brionnel, homme, tomba malade au bout de quelques mois et mourut un peu apaisé, sans doute par les larmes de sa fille, mais sans avoir pardonné à ceux qu'il nommait les auteurs de sa mort. Martha languit une année environ après la mort de son père. Dans les derniers temps, on voyait passer sur la grève de Lochirec deux femmes en deuil, marchant lentement les yeux fixés sur la mer où des voiles paraissaient au large. Elles s'arrêtaient de temps à autre pour mieux regarder. La plus petite, toute pâle et qui boitait un peu, s'asseyait souvent sur les roches. Sa compagne l'aidait à marcher, l'entourait de soins maternels. Il serait inutile de les nommer. La veuve de Martha, désormais inséparable, allait au-devant d'un fils et d'un fiancé. Triste fiancé qui savait que la mort épouserait sa promise. Esclave de sa tendresse et de son dévouement, Franz, rattaché à la vie par le sentiment du devoir, travaillait avec ardeur pour ses deux amis, sa mère et la petite tante. Il travaillait, et pour quelle raison, en ce qui concerne Martha, puisque Brionnel passait pour presque riche? Non, l'ancien brigadier, vaniteux et vantard, n'avait laissé que des dettes à sa fille. Et Franz, intrépide, lutteur, travaillait pour les payer, pour que Martha ne sût jamais que son père était mort insolvable. Nous n'ajouterons rien à ceci. Nos pages seront bientôt épuisées. Martha mourut comme une mouette blessée sur la grève, dans les bras de la veuve du pilleur, dont le fils pleurait à leurs pieds. Elle avait aimé le malheureux Franz, il est vrai, mais pourtant avait-elle jamais connu toute l'étendue de son dévouement? Ce fut la seule récompense du matelot. La seule, non, grâce à Dieu. La conscience de s'être dévoué jusqu'au bout et sans retour, d'avoir accompli avec intrépidité un devoir souvent amer, toujours difficile, remplit sa carrière d'assez de force et même de joie intérieure pour qu'il lui fût possible dans la suite d'affronter les brisants de la vie sans y sombrer. Coatarock, janvier 1879.